gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Canu et c'est le direct qui reprend après quelques bandes continues. Et bien c'est la causerie comme tous les dimanches de 22h à 23h et dans les studios ce soir nous avons Clara à la technique.
Bonsoir.
On a Fab.
Salut.
Et on a une invitée, Delphine, bonsoir.
Bonsoir.
Et Jean-Yves qui a fait l'ouverture.
Tout à fait, bonsoir. Alors, avant qu'on continue, qu'on commence à causer avec Delphine, en fait, on va vous donner les infos pour contacter la causerie comme on le fait tous les dimanches. Déjà, si vous voulez nous contacter par mail, Fab.
lacauseriecanu@gmail.com, en minuscule, tout attaché. Et voilà, en général, on répond.
C'est ça.
lacauseriecanu@gmail.com.
Vu le peu de personnes qui nous écrivent, de toute façon, on vous répondra. Il y a aussi le blog de la causerie où vous pouvez retrouver tous les podcasts, etc., toutes les infos qui vont avec chaque émission. Et ça se passe sur le blog de la causerie, donc c'est blogs.radiocanu.org/lacauserie,
où vous allez sur le site de Radio Canu et vous cherchez les blogs et on est dedans.
C'est ça. Et on a aussi un espace sur un réseau commercial dont on ne donnera pas le nom, qui commence par Face et qui se termine par Book. voilà, à vous de chercher. Ce soir, donc, on peut resituer. On va peut-être te laisser d'abord te présenter.
Non, d'abord non. Dire pourquoi
pourquoi on fait cette émission. Alors, en fait, Delphine, elle bosse dans un EHPAD. Elle nous dira un peu plus après ce que c'est. Parce que c'est lié aussi à la manif qu'il y a eu la semaine passée et qu'on s'est dit, causer de ce sujet-là, de ce milieu-là, tant du point de vue de ceux qui y travaillent que ceux qui y vivent, ça pouvait être intéressant. Donc, voilà un peu l'objectif de l'émission de ce soir.
Et ça part d'un autre constat qui était que dans les manifs qu'il y a eu, on a donné beaucoup, beaucoup la parole aux directeurs et directrices qui s'étaient mêlés à la manifestation, et tant mieux, mais assez peu finalement, on s'est dit aux gens qui sont sur le terrain, ce qui est ton cas.
C'est ça.
Et ben donc, du coup, qui es-tu? Présente-toi.
Je suis Delphine, aide-soignante depuis 20 ans en maison de retraite, en EHPAD, donc qui est une... N'est-ce pas Jean-Yves?
C'est un établissement d'hébergement.
Pour personnes âgées dépendantes.
C'est ça.
Voilà, et je suis syndicalisée de CGT depuis de nombreuses années, DP et CE.
Ok, à la CGT donc.
Oui, à la CGT.
Et donc du coup, tu disais 20 ans de métier, 20 ans que tu travailles là-bas.
Oui.
Mais alors, c'est quoi cette structure? Il y a combien de personnes
Alors, c'est donc une maison de retraite où il y a 82 résidents, une structure où il y a normalement un cantou aussi de 10 lits. Un cantou, c'est un secteur qui est spécialisé pour les personnes dépendantes physiquement valides, mais qui ont une tendance démente à la maladie d'Alzheimer. Voilà.
Donc, c'est plutôt pour les gens qui ont une dépendance lourde.
Mais qui n'est pas physique.
Mais qui n'est pas physique, voilà.
Voilà.
Ok. Et les autres sont plutôt sur une dépendance physique.
Normalement.
Ah, et pourquoi tu dis normalement comme ça?
Bah, parce que depuis quelques années, la population est vieillissante. On met en place certaines choses, dont le maintien à domicile des personnes. Et en fait, après, donc, elles arrivent chez nous plutôt beaucoup dépendantes et que ces structures de Cantou ne suffisent plus pour les accueillir. Donc, nous retrouvons des personnes aussi aux étages qui sont aussi de la dépendance. Voilà.
Oui, c'est ça. C'est des enfin, en fait, les espaces Cantou, donc pour les personnes qui ont une dépendance non pas physique, on va dire, mais qui est plus psy, ou
voilà,
on peut dire ça comme
morale,
ça.
Morale, ouais, voilà.
Ouais. Ben, en fait, ils devraient un peu grandir, quoi. En fait, ces Cantou là, c'est ça, en fait, un peu l'idée.
L'idée, ce serait bien, mais il n'y a pas de budget.
Oui, c'est ça. En fait, je crois que ce soir, la clé du truc, c'est un peu budget.
C'est ça. C'est que ça va être la soirée. Il n'y a pas de sous.
C'est ça.
Et donc, du coup, donc tu disais 82 résidents et résidentes en tout.
Oui.
C'est ça. Et donc, je suppose avec une équipe énorme.
Mais bien
voilà,
sûr.
Et tout ce qu'il faut, parce que sinon, c'est pas possible. On laisserait pas nos vieux dans des conditions terribles.
Mais bien sûr, ça c'est dans les rêves de tout le monde, je pense.
Ah, moi j'ai vu la ministre, elle a dit que tout allait bien.
Ouais, mais ça ce sont des gens qui sont pas dans le milieu et qui sont pas à l'intérieur tous les jours au quotidien.
Et vous êtes combien pour ces 82 personnes?
Eh ben, donc dans l'étage où il y a les 72, nous sommes 7 soignantes à s'en occuper. Et le Cantou, elles sont une et demie, c'est-à-dire une qui est là en 12 heures et une autre qui est là en 7 heures.
Donc vous êtes 7 aides-soignantes
pour 72.
Pour 72 personnes.
C'est ça.
Plus, à côté de ça, il y a quoi? Il y a un infirmier, une infirmière?
Il y a un infirmier et demi.
Ennemi, il est coupé en deux.
Bah, c'est pareil, on a un infirmier qui lui fera 12 heures et un infirmier qui fera que 7 heures. Donc ça fait un infirmier et demi dans la petite
journée. Ce qu'on appelle en équivalent temps plein, ça fait un et demi. Quoi.
Voilà, ouais. Dans la journée.
Alors une petite remarque comme ça en passant, mais ce qui veut dire, si je fais l'addition des temps de présence des deux infirmiers, ça veut dire qu'il y a un temps où il n'y a pas d'infirmier sur place.
La nuit, à partir de 20h30, il n'y a plus d'infirmier la nuit jusqu'au lendemain matin, 6h30. La nuit, nous n'avons qu'une aide-soignante et une auxiliaire de vie pour les 82 patients.
Tu peux le redire doucement, ça?
Alors,
une aide-soignante et...
La nuit, nous n'avons qu'une aide-soignante et une auxiliaire de vie qui doivent gérer toute une maison pour 82 patients.
Alors, on va peut-être rappeler ce que sont ce que tu appelles les auxiliaires de vie.
Alors, les auxiliaires de vie, en fait, c'est une fonction que nous avons créée depuis très longtemps, où c'est des gens qui font le même travail qu'une aide-soignante, mais qui n'ont pas le diplôme soignant, qui normalement devraient pas faire toutes les tâches, mais ce qui n'est pas possible vu que nous sommes en sous-effectif, et qui elles ne sont pas payées par contre par l'État, mais sont payées par la maison, c'est-à-dire les familles et les résidents eux-mêmes. Ce n'est pas le même budget.
Donc ça veut dire que tu disais il y en avait 4, hein, c'est ça, à la journée des hôteliers,
auxiliaires. Non, il y a les auxiliaires, et après il y a aussi des agents hôteliers qui,
d'accord,
eux sont payés par le même budget que les auxiliaires de vie.
D'accord. Mais en fait, vous n'êtes pas beaucoup, quoi.
Non, on est très peu, en fait.
Pour ça, en tout, si je fais le calcul, vous êtes une quinzaine, quoi.
Voilà. Mais après, ça, enfin, pour certains, peut-être avoir l'impression que c'est beaucoup et d'autres peut-être moins, mais moi, je peux vous assurer que c'est moins, parce que plus on vieillit, plus on a besoin d'aide, de dépendance, pour des choses quotidiennes qu'on a l'impression que c'est anodin quand on est jeune, mais qui sont très compliquées quand on est ancien. Et voilà, et quand on a une moyenne de 10 à 12 personnes à gérer du matin jusqu'au soir, et ben malheureusement, au détriment de certains, on est obligé de laisser certaines tâches et d'aller à plusieurs gens, quoi, au coup tout le temps.
Et justement, vu que tu parles de « on n'est pas assez », etc., dans la journée, etc., je me dis qu'avant qu'on fasse une petite coupure musicale, peut-être que tu peux justement donner... Alors c'est très compliqué, ce genre de journée type, parce que je pense qu'elle ne se ressemble pas toujours, etc., mais
oui,
ça ressemble un petit peu à quoi, en fait?
Déjà, on peut demander, tu travailles comment? C'est-à-dire, tu travailles à la journée, la
oui,
nuit,
alors,
en 12 heures,
moi,
en 8 heures?
Je travaille en journée, donc généralement, en journée, il y a trois horaires, c'est ou 7h15, 7h15, 8h15, 8h15, ou 7h30, 7h30.
Donc en 12 heures, vous faites 12 heures
on
dans la journée?
On fait 12 heures, on a une heure de coupure repas... entre midi et deux. Donc en gros, on fait 11 heures de travail effectif.
Ouais.
Et donc, pour prendre une journée type, je vais arriver à 7 heures, parce que bien sûr, nous venons toujours en avance, parce qu'il faut qu'on puisse prendre notre relève et avoir une relève orale avec l'équipe de nuit. Et ensuite, quand j'ai réussi à prendre toutes mes données, je prends ma liste, parce que c'est par liste, parce que chaque personne a sa liste de patients. Et voilà, donc je commence et là je vais regarder aux choses les plus urgentes, les plus importantes à faire. Et je vais commencer ma journée à me dire, ben, les choses moins importantes, ça sera pas fait. Parce que mettez-vous à ma place d'avoir 10 personnes, ou dans les 10, j'ai peut-être 2 personnes valides, et le reste sont des personnes qui sont complètement dépendantes, à fauteuil roulant, qui ne peuvent plus marcher, donc voilà. Et après, ben, c'est un jonglage toute la matinée, entre les toilettes, les gens qui ont d'autres besoins, et ce qu'il y a autour, ce qu'il y a, tout ce qu'il y a autour, faire les lits, aider au petit déjeuner, à donner à manger. Ensuite, après, c'est tous les rassembler, faire ses sacs, descendre ses poubelles, descendre tous les résidents en salle à manger. 90% des gens, c'est des fauteuils roulants, donc imaginez avec un ascenseur comment ça peut se passer, avec des ascenseurs qui tombent toujours en panne en plus. Voilà, après, c'est un repas, faire servir, 28 à 30 personnes à faire manger.
À faire manger, c'est-à-dire que tu fais toi le geste pour qu'ils puissent manger.
C'est cela.
C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas manger tout seuls.
Non.
C'est toi qui... Voilà.
C'est ça. Nous sommes 6, parce qu'il y en a une qui est au plateau pour les personnes qui ne peuvent pas descendre. Et nous, donc, nous sommes 6, oui, à faire manger des personnes en l'espace d'une demi-heure, 40 minutes. Et après...
Et vous avez tous des entonnoirs, je suppose, parce que c'est compliqué là, de faire manger aussi vite 30 personnes.
Ah non, mais ouais, c'est ce que je vous dis, c'est du jonglage. C'est de la rapidité, c'est tout dans le rapide, c'est tout, voilà. Et ensuite, il faut les remonter, coucher ceux qui ont besoin d'être couchés, emmener aux toilettes ceux qui doivent être en toilettes, la petite heure de pause repas, et ensuite on repart, relever de la sieste, je les change, les descendre pour ceux qui vont aux animations, verticaliser toutes les personnes qui ne tiennent pas debout mais qui veulent aller aux toilettes avec un appareil spécial. Et après, c'est redescendre encore tout le monde, les aider à manger, les remonter, tous les coucher. Donc voilà, et coucher, c'est ce que je vous expliquais un peu en amont, c'est-à-dire, c'est pas 2 minutes, c'est les changer, les mettre en pyjama, leur nettoyer les dentiers, nettoyer les bas, nettoyer les fauteuils roulants, voilà, après, et puis tout ce qu'il y a autour, c'est à peu près ça, une journée type. Ensuite, penser aux relèves, et encore les sacs à faire, les chariots à recharger pour les collègues le lendemain, ou pour soi-même, bien sûr. Et voilà, faire une relève avec l'équipe de nuit et enfin arriver à rentrer chez soi.
Voilà, rien que ça m'a épuisé, mon perso. Mais non, mais je voudrais juste quand même redire 2 choses qu'on a dit, et après on va faire une petite coupure pour que les gens se rendent compte. Donc déjà, il y avait tout ce que tu décris. Il y a aussi le fait qu'on a fait un petit calcul rapide et on a donc estimé que tu soulevais plus de 2 tonnes par jour.
C'est ça.
Parce que voilà, les gens, ça pèse quelque chose. Donc quand faut les soulever, ce qui explique ton énorme carrure. Voilà, alors, toute grignette. Donc on va pas dire qu'il y a une grosse carrure. Et derrière, il y a la notion aussi, tu disais, de ne plus avoir le temps finalement de voir les gens avec la notion d'humanité nécessaire en fait.
Ah oui, tout à fait. Maintenant, moi j'ai 20 ans de carrière et je ne fais plus du tout le même métier que je faisais au départ. J'avais au départ un métier où il y avait beaucoup de relationnel, où il y avait beaucoup d'aide, mais plus des soins, mais de plaisir pour les patients, de massage, des petites choses qu'on aime quand on... Voilà, des activités, des choses qu'on faisait ensemble.
Du bien-être, en fait.
Bien-être, voilà, qu'on était là à la base pour apporter à ces personnes qui se retrouvaient un peu seules chez eux. Et au jour d'aujourd'hui, c'est un travail de rapidité. J'ai l'impression d'être dans une usine et avoir des machines en face de moi et qu'on me demande de faire du rendement. Et voilà, c'est que de l'hygiène, la propreté, mais il y a plus ce qu'il y a autour, quoi.
On fait une petite coupure et on en reparle juste après.
Ouais.
d'entendre The Verve avec Bittersweet Symphony dans La Causerie. On est ce soir dans une émission un peu spéciale où on parle des EHPAD avec Delphine. Et donc du coup, on va d'abord rappeler que c'est toi qui as choisi les titres de musique, parce que c'est comme ça, quand on a une ou un invité, c'est la personne qui choisit les musiques. Et comme ça, on se dédouane de ce qu'il y a après, si c'est pas bien et que vous aimez pas.
C'est sympa, les gars.
Non, mais alors du coup, alors juste avant, tu disais que ça fait 20 ans maintenant que tu travailles dans des EHPAD.
Oui.
Et alors ça s'appelle EHPAD depuis pas très longtemps. Avant c'était MAPAD, tout ça. Enfin, ça a changé de nom il y a pas très longtemps. Et donc du coup, moi ce qui m'intéresse, c'est quand t'es arrivé dans le métier, tu disais j'avais plus de temps, de liens avec les résidentes et résidents. Et tu dis aujourd'hui j'en ai plus. Mais alors qu'est-ce qui a changé? Comment c'était il y a 20 ans, on va dire, et comment c'est aujourd'hui en fait?
Alors il y a plusieurs points à regarder. Le premier point, c'est que avant, quand j'ai commencé dans cette maison de retraite, à l'époque, c'était une maison de retraite, on appelait cure médicale et maison de retraite. C'est-à-dire qu'il y avait une partie des personnes qui étaient dépendantes et gérées par du personnel de la maison. Et il y avait l'autre moitié qui était gérée par des infirmières libérales qui venaient le matin et le soir. Et nous avions en gestion que le reste de la journée, mais c'était des gens qui étaient quand même un peu moins dépendants. Et déjà, il y avait une entraide aussi entre infirmières libérales et nous-mêmes d'équipe. Et donc, des gens étaient aussi beaucoup moins dépendants à cette époque-là.
C'était plus mixé d'un point de vue origine et d'un point de vue difficulté. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que des gens qui étaient en dépendance lourde, il y avait des gens qui étaient là juste parce qu'ils ne pouvaient plus vivre seuls.
Voilà, il y avait des gens aussi qui désirèrent venir en maison de retraite parce qu'ils se sentaient seuls chez eux et que une structure les rassurait. Donc on avait vraiment un pêle-mêle totalement différent et dont des gires complètement différents. Les gires, c'est la dépendance des gens, et donc on avait beaucoup plus de personnes qui avaient des gires 4-5, c'est-à-dire après presque aucune dépendance, et beaucoup moins de gires 1-2. Mais suite à ça, déjà l'État a décidé de recourir au maintien à domicile des gens. Donc ce qui dit que nous, les gens qui arrivent, forcément c'est que c'est des personnes qui peuvent vraiment plus rester dans leur appartement. Et de plus, l'État a décidé de supprimer ce système-là et de créer un système appelé tripartite, c'est-à-dire que l'État prend sous sa coupe la responsabilité des EHPAD et se met à décider de gérer quel budget il distribuera selon les gires des patients qu'il y a dans la structure.
Donc ça veut dire en gros, pour ta direction, que plus vous avez de gens en gire 1 et 2, et plus vous avez un gros budget.
Soi-disant.
Théoriquement, hein.
Théoriquement, c'est ça.
Mais en pratique, c'est pas ça.
Pas du tout. Okay. En pratique, j'attends encore de voir quand est-ce qu'on aura vraiment un budget.
On va rappeler que c'est lié à la réforme où on a supprimé un jour férié, où il devait y avoir aussi, là aussi, des améliorations.
Ça, c'était suite à 2003, suite à la canicule de 2003, où on a créé le jour de solidarité pour les personnes âgées, donc notre jour férié, n'est-ce pas?
Et cet argent-là non plus, vous l'avez jamais
vu? Non, je le cherche encore.
Je crois que vous êtes plusieurs sur le coup.
Ouais. Je sais pas, on a fait une chasse au trésor, mais on trouve pas.
Et donc, ça veut dire quand même que depuis des années, on vous dit on restructure pour aider, pour que ce soit mieux, tout ça.
Oui, mais
au final, vous êtes toujours le même nombre avec des gens de plus en plus dépendants.
Voilà.
Et des gens qui finalement.
Avec des pathologies beaucoup plus complexes.
Ouais.
Parce que forcément, les gens sont de plus en plus vieillissants. La population, on l'entend, enfin tout le monde l'entend, la population vieillit. Donc forcément ça engendre des démences, et parce que c'est malheureusement comme ça la vieillesse très souvent, et nous nous retrouvons dans des situations avec des gens qui ont une démence très forte et qui devraient être plutôt dirigés dans des structures de gérontopsie, mais qui se retrouvent chez nous. Et donc nous, derrière, le personnel subit des sévices physiques comme psychologiques, et qui peuvent des fois être très graves. Et le problème, c'est que pour être entendue en tant que soignante, c'est très compliqué et ça prend beaucoup de temps.
Parce que, pour être clair, qui choisit qui rentre dans l'EHPAD?
Alors c'est le médecin coordinateur avec la chef, donc notre cadre de santé, une psychologue, et voilà.
Mais c'est ça qui est bizarre, c'est-à-dire que théoriquement, tu soulignes qu'il y a des gens qui relèveraient plutôt de la gérontopsychiatrie, c'est comme ça que tu dis. Donc ces personnes, elles devraient pas du tout arriver chez vous, et théoriquement, la sélection devrait faire en sorte que vous devriez pas être exposé à des personnes potentiellement dangereuses pour elles comme pour vous, finalement.
Tout à fait.
Mais ça arrive quand même, fréquemment.
Ouais, très très souvent, on se retrouve dans des situations très complexes.
Non, c'est pas grave. Mais alors, est-ce que j'ai une question, mais est-ce que ces personnes-là se retrouvent dans vos services parce que là où elles seraient censées aller, il n'y a pas de place non plus?
Voilà, alors c'est la question aussi que nous on se pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas à revoir tout un système en France sur la gériatrie et la gérontopsie parce que, et la psychiatrie, enfin... C'est des choses dont je vous l'ai dit, je pense qu'on a un réel problème en France sur tout ce qui est de l'hospitalisation en général, et donc ça engendre sur tout le monde. Mais le problème, c'est que nous, on n'a pas la formation ni les moyens, et on n'a pas de moyens pour pouvoir sécuriser cette personne de se faire mal pour elle-même, mais pour les autres aussi.
Et parce que tu disais, il y a des patients, tout patient...
Qui vont frapper d'autres patients.
Voilà, qui sont violents, mais
envers d'autres patients aussi. Envers nous, mais envers d'autres patients.
Oui, donc là, c'est une problématique qui n'est pas uniquement de dire... parce que des fois, on entend, je reprends encore à cette chère ministre qui disait « Oui, mais les gens se plaignent, mais c'est surtout parce qu'ils devraient changer de métier, parce que finalement, c'est normal d'être insulté, c'est normal d'être frappé. » Mais non, c'est pas normal, quand on y réfléchit, ça devrait pas être votre vie de tous les jours, quoi.
Non.
Et voilà, enfin...
Non, après, bien sûr qu'on l'entend et qu'on sait très bien que les personnes sont démentes et je pense avoir la capacité, le recul nécessaire envers ces personnes. Après, c'est plus envers l'institution et les personnes qui nous encadrent, qui, au bout d'un moment, quand un personnel se plaint énormément d'énormes difficultés de prise en charge de personnes, où la réactivité n'est pas là, quoi. On n'en a aucune et on se sent très seul.
Et vous gérez quand même la problématique.
C'est ça, on gère la problématique. En fait, on est pluridisciplinaire en fait, dans ce métier, on n'est pas qu'aide soignant.
Oui, mais c'est là qu'il y a un réel problème, parce que finalement, s'il arrivait à quelque chose, ça vous retomberait dessus. Parce qu'on dirait, mais vous ne nous avez pas prévenu, quoi. Enfin, c'est le truc, le chat qui se mord la queue.
Ah oui, non, mais voilà, on va nous dire, faut écrire sur... Alors Osiris, hein, c'est un logiciel où on doit écrire... Tout ce qu'on a à se faire sur nos journées, c'est informatiser et garder, c'est les relèves, quoi, qu'on dit. On nous demande d'écrire, hein, mais je vous assure qu'on écrit, mais il peut y avoir des pages et des pages, hein, donc ça, il y a une réaction, en fait.
Ouais, c'est écrit, mais c'est pas lu, quoi.
Voilà.
On va être clair.
Voilà.
Et moi, j'avais une deuxième problématique que tu soulevais pendant la prépa, c'est aussi le rapport à la mort. C'est-à-dire que tu disais aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus exposé finalement à la mort qu'il y a quelques années en arrière, par rapport à ton métier il y a 20 ans. Parce que comme les gens arrivent finalement au dernier moment, on va dire, sur les derniers moments de vie, bah, t'avais un peu l'impression que ça tournait et que t'avais même plus le temps de connaître les gens qui déjà y décédaient, quoi.
C'est ça. Ces derniers temps, ces dernières années, puis là on a eu une énorme vague chez nous. Malheureusement, oui, on a énormément de décès, beaucoup plus rapprochés et proches, et des gens qui viennent à peine d'arriver. Ces situations, on ne les connaissait pas avant. Avant, on avions des gens pendant des années avec nous. Et là, on n'a même pas le temps, en fait, de se reprendre que déjà, on doit rentaquer sur quelqu'un d'autre. Et c'est toute la complexité, parce qu'il faut apprendre à connaître les gens. On n'a pas le temps d'apprendre à les connaître, pas le temps d'apprendre à les connaître les familles. Et d'arriver à gérer tout ça, et puis vivre avec la mort au quotidien, c'est pas agréable, je pense, pour tout le monde. Même si on sait que ça fait partie de notre métier, mais c'est pas notre partie préférée, notre métier.
Ce serait étrange, sinon.
Ouais, voilà. Mais donc c'est vrai que non, ça devient de plus en plus compliqué. Et comme je vous dis, c'est aussi gérer tout ce qu'il y a autour. Il faut gérer les familles, les demandes des familles, parce que ça aussi c'est très compliqué. On dirait pas, mais la culpabilité des familles est compliquée à gérer aussi pour nous.
Oui, parce qu'en fait vous avez plusieurs pressions, en fait. En fait, vous avez la pression, on va dire, de ceux qui sont au-dessus, des directeurs, directrices, etc., de vos établissements. Mais en plus, il y a une pression aussi des familles. Et ce qui fait qu'en fait, vous êtes entre les deux et c'est vous qui prenez à peu près tous les tous les coups entre guillemets, mais tout ce qui est
Toute la pression quoi.
Ouais, c'est ça en fait.
Voilà, en fait, c'est tout à fait ça. C'est arriver à gérer déjà la première chose, hein, sans parler parce qu'on parle beaucoup budget, mais sans parler budget, je pense que pour un enfant devoir mettre son parent dans un institut, c'est pas simple. Donc déjà, faut arriver à gérer les familles et leur culpabilité de devoir abandonner, la sensation d'abandonner quelqu'un de sa famille. Donc il y a cette pression là. Donc la pression aussi du fait qu'ils, pour eux, ils donnent quand même une certaine somme. Faut pas, enfin, c'est pas négligeable. C'est quand même un gros budget à donner. Donc ils attendent une prestation qu'ils n'auront pas parce que on n'est pas en effectif pour pouvoir leur donner cette prestation. Donc eux, forcément, ils ont une pression sur nous. Mais le problème, c'est que nous, on peut pas leur rendre leur, même si on le voudrait. C'est pas du non voulu. C'est que on n'a plus le temps. Et honnêtement, je le dis, nous faisons de la maltraitance institutionnelle. Et ça, nous repartons aujourd'hui tout en le disant. On part du bout de travail en se disant qu'on a fait une maltraitance toute institutionnelle toute la journée.
C'est-à-dire qu'en fait, la rentabilité demandée et la rationalisation demandée finalement par l'État, du moins par le système de tripartite, comme tu disais, entraîne finalement que vous revenez en arrière sur les conditions de vie de vos résidents. Parce que globalement, tu disais pendant la prépa des choses moi qui m'ont vachement surpris, mais une douche par semaine, par exemple.
C'est ça, on est obligé, on calcule chaque résident, on leur douche calculée, c'est-à-dire que sur ma liste, par exemple, le lundi, il y a deux personnes, le mardi, c'est deux autres, le mercredi, c'est deux autres, parce que c'est impossible de doucher tout le monde tous les jours. Nous n'aurions pas le temps, ils ne pourraient pas être à midi tous en bas pour manger. Donc on est obligé de choisir, on est obligé de sélectionner.
Et, ouais. ça repose sur toi, enfin sur vous.
Bah oui,
sur les aides-soignantes.
C'est une obligation. Et puis, il faut être honnête, une matinée, c'est ça. Une fois qu'on a fait une toilette, on n'y retourne pas, on n'a pas le temps, on a trop d'autres personnes. Donc si la personne a envie d'aller aux toilettes, et tant pis. Donc ça s'appelle de la maltraitance institutionnelle. Mmh. Et on le fait tous les jours.
Ouais, parce qu'il y a plus d'attention aux individus, en fait, quoi. Aux besoins individuels. Monsieur ou Madame Intel, Monsieur ou Madame Intel douche. Enfin, c'est plus que des chiffres et des actions, quoi. C'est hyper binaire, quoi. Enfin,
je comprends que ça puisse choquer, mais nous, c'est pour ça que voilà, cette fois, on le dit tous qu'on en a marre, parce que honnêtement, moi, je vois en 20 ans déjà même. Enfin, pour nous, les soignants, la plupart sont de plus en plus en AT. Il y a beaucoup d'accidents de travail qui existent, qu'il n'y avait pas autant avant.
Et beaucoup sur le psychologique, d'ailleurs.
Il y a beaucoup de personnes psychologiquement qui craquent, parce qu'il faut arriver à tenir, parce qu'aussi on a une vie extérieure et qu'il faut arriver à gérer son travail et sa vie extérieure. Et quand ta journée de travail a été très compliquée et que malheureusement, ces derniers temps, elles le sont presque toutes, tu craques, tu n'y arrives plus, puis tu as des humains en face de toi, donc tu te dis qu'il vaut mieux peut-être pas y aller que d'aller faire n'importe quoi.
Oui, mais si moi j'en crois un ancien ministre de la Santé, quand même, il nous a expliqué que vous étiez extrêmement bien payé pour tout ça, et que du coup, c'était tout à fait compensé, et qu'il n'y avait pas de raison que vous soyez dans la rue le 30 quand même.
Ah, écoutez, moi je vais vous prendre un exemple d'une jeune aide-soignante qui vient d'arriver chez nous. Donc qui est à temps plein, hein, qui travaille un dimanche sur deux, je le précise, hein, parce que ça fera partie de son salaire par mois. Donc parce qu'on a une mini prime, hein, pour notre dimanche qui s'élève à 50 € brut. Voilà.
C'est vraiment une mini prime.
Hein. Voilà. Et donc cette demoiselle tourne autour de 1 200 € par mois.
Et donc toi, au bout de 20 ans ?
Alors moi, j'ai 20 ans d'ancienneté. Bon, alors moi, c'est un peu particulier parce que j'ai décidé de rester qu'à mi-temps. Je vais donner mon salaire, moi, à mi-temps. Je suis entre 650 et 670 € par mois.
C'est-à-dire que tu ferais en gros 1003, 1004
À temps plein.
À temps plein.
Après 20 ans.
Ouais. Parles en net ou en brut ?
Alors je vous parle en net, hein, ouais. Heureusement, hein, parce que si j'étais en brut, là, ce serait encore plus grave.
Non, mais
ça ferait vraiment peur. Mais oui, tout à fait.
Et en travaillant les week-ends, quand même.
Voilà, en travaillant les week-ends, c'est ça, c'est nos salaires.
Là, j'ai juste envie d'avoir une petite pensée pour certains et certaines députés qui se plaignaient, je crois, ces derniers temps, qui n'étaient pas assez payés à 4 000, 6 000 balles par mois.
C'est ça.
Mais effectivement, j'ai l'impression que ton milieu à toi, c'est un peu comme le milieu infirmier, comme le milieu, enfin tout
pareil,
ce qui est travailleur médico-social.
En fait, ouais, j'ai envie de dire c'est les EHPAD, mais franchement c'est les EHPAD et les secteurs hospitaliers. Je pense que vraiment les Français ne se rendent pas compte et ils devraient essayer de se rendre compte de ce qui leur attend pour eux-mêmes demain, en tant que patient. Ça peut être arrivé à tout le monde, l'hôpital, les maisons de retraite, ça peut arriver à tout le monde, et on rentre vraiment dans un système, excusez-moi, mais je reprends pas ce qu'on est tout à l'heure, mais c'est un système à l'américaine. Mmh. Bientôt, certaines personnes ne se feront plus soigner parce qu'il n'y aura plus rien. On enlève du budget de partout.
Mais ce qui est bien, c'est que ça laissera des chambres de libre et les pauvres crèveront chez eux et sans personne. Et... Non, mais je dis ça avec beaucoup d'ironie, évidemment.
Non, mais oui, c'est à peu près ça. Je pense que c'est ce qui se passera, malheureusement. Oui.
On va rappeler une des revendications, puis on reviendra après la pause musicale dessus, qui était justement la création d'une branche dépendance en France, parce qu'on rappelle qu'en France, la dépendance n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait,
plus tu es dépendant, plus tu coûtes cher, donc plus tu payes cher.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris en compte dans une branche de la sécurité sociale, finalement, la dépendance, alors qu'aujourd'hui, j'ai retrouvé mes chiffres quand même, 2 personnes sur 3 en fin de vie va être dépendante.
C'est ça.
À un niveau ou un autre. Donc c'est énorme. C'est-à-dire que ça veut dire que 2/3 des gens vont avoir besoin d'une aide diverses et variées. Ça va de la personne qui vient faire le ménage chez vous à des dépendances plus lourdes comme celles que vous avez dans ton EHPAD. Mais finalement, ça veut dire quand même qu'on n'a pas pris en compte quelque chose qui va toucher 2 personnes sur 3 au-delà de 70 ans.
C'est ça.
Voilà. C'est quand même un chiffre important.
Et pourquoi les gens ils vont voter? Parce qu'il y a des gens qui sont censés penser à leur vie, en fait.
Hein? Ah oui.
C'est ça, en fait. Donc en fait, les politiquards ne servent pas à grand chose.
Alors moi, je vais vous parler, parce que vu que tu parles politique, je vous donne une petite anecdote, parce que ça m'a toujours fait rire. Les personnes âgées intéressent toujours les politiquards
au moment des élections.
Voilà. Que ce soit au niveau national ou mairie, c'est toujours le moment où on adore nos vieux, ouais. Mais après, on les oublie vite, malheureusement. Quoi.
Mais ça, on le voit.
C'est quand il faut des voix. Moi, je voulais juste quand même vite fait parler encore d'un truc, c'est parce que là, avant, on a parlé salaire, etc. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que, on en a parlé quand on a préparé cette émission, c'est que vous faites aussi du bénévolat.
Ah oui.
Ah oui, ça c'est quelque chose, oui, qui existe depuis très longtemps.
Vous avez du temps de travail, en fait, qui n'est pas compté, enfin, qui n'est pas payé, en fait.
Non, non. Alors, voilà, après, je pense que c'est la conscience de chacun et je forcerai jamais personne à le faire. Après, personnellement, je sais que beaucoup de maisons de retraite le font et que nous, la nôtre, on le fait énormément. Oui, il y a un énorme noyau du personnel qui s'investit pour faire des fêtes, des carnavals, des fêtes pour l'été parce qu'il y a des cocktails, les fêtes de Noël, où on prépare des spectacles, on fait des costumes, voilà, et tout ça, on le fait bénévolement, oui, pour les résidents.
Du bien-être pour les résidents.
Voilà, on fait du bien-être à nos résidents parce qu'on n'a pas le temps de le faire quand on est au travail.
C'est ça, donc pour garder un visage humain et humaniste, j'ai envie de dire, avec nos petits vieux et nos petites vieilles, il faut que vous le fassiez sur votre temps libre.
Voilà, on prend du temps libre.
On va juste donner un chiffre que tu avais donné. Aujourd'hui, vous avez sur ta structure pour 82 personnes un mi-temps. Une personne à mi-temps qui est censée s'occuper de l'animation.
C'est ça, voilà.
Alors que la loi oblige théoriquement à avoir une personne qui gère l'animation et le bien-être en vie,
parce que la loi a prévu que normalement l'animatrice doit individualiser son animation par patient. Mais le problème, c'est quand on n'a qu'un mi-temps pour 82 patients, c'est assez compliqué d'individualiser tes animations, tout en gardant tes animations, bien sûr, collectives. Donc,
t'as 17h30 par semaine pour t'occuper de l'animation individuelle de 82 personnes plus les collectifs. Tout va bien.
Ça fait des animations rapides, quoi. C'est des animations flash. On en rigole, mais non. Et ok, on fait une coupure.
Faut des casseroles dans la bagnole, la carte bleue dans la chatte. Faut de la dinde pour Noël, faut bronzer pendant les vacances. Faut des forfaits pour oublier la solitude. Faut des gonzesses à la télé, ouais, faut des pilules pour bander. Faut du gazon dans les tabacs, il faudrait arrêter de fumer. La salle de sport sur des machines, faut s'essouffler, faut s'entraîner. Faut marcher dans les clous, faut pas boire au volant, faut dépenser.
lance les petits sauts. Faut du réseau pour les enfants. Faut ressembler à des guignols. Faut que tu passes à la télé pour rentrer dans les farandoles de ceux qui ont le blé. Je me balade dans les grandes surfaces. J'ai pas assez, mais faut payer. Je cours au gré des accessoires et des conneries illimitées. Les gens parlent mal, les gens sont cons, au moins tout aussi cons que moi. À se faire mettre, à se faire baiser sur, à se faire enfanter. Des bébés par des hologrammes, des mots d'amour par satellite. Mais ces connards, ils savent pas lire, ils savent même pas se nourrir. Des OGM dans les biberons, ouais, c'est tant mieux, ça fera moins de cons. Quand ils crèveront en mutation, des grippes porcines sur des cochons. Oh non, l'homme descend pas du singe, il descend plutôt du mouton. Oh non, l'homme descend pas du singe, il descend plutôt du mouton. Faut marcher dans les clous, faut pas boire au volant. Faut dépenser ses petits sous, faut du réseau pour tes enfants. Faut ressembler à des guignols, faut passer à la télé. Virer des profs, et puis les travailleurs sociaux, les fonctionnaires qui servent à rien, les infirmières à 1000 euros. Faut que ça rapporte aux actionnaires, la santé et les hôpitaux. Va te faire soigner en Angleterre, va voir la gueule de leur métro. Faut qu'on se fasse une raison, on a loupé nos transactions. On s'est laissé prendre le cul par nos besoins, nos religions. Il faut foutre le portail aux chiottes et des coups de pioche dans la télé. Faut mettre les menottes à chaque présentateur du JT. J'accuse au mégaphone dans l'assemblée. J'accuse au mégaphone dans l'assemblée. Faut du gasoil.
Causerie sur Radio Canu, comme tous les dimanches de 22h à 23h. On vient de s'écouter Damien 16 avec le titre J'accuse, encore un titre choisi par Delphine qui est avec nous ce soir pour parler des EHPAD, etc., etc. Et en fait, vu qu'on approche de la fin, donc on continue d'avancer. En fait, on était sur cette gestion comptable en fait des établissements pour les personnes âgées. Alors, qui amène déjà à la déshumanisation finalement de ces gens, qui ne deviennent plus que des objets qu'on va laver, qu'on lave pas, etc.
Ouais, et la maltraitance institutionnalisée.
Et la maltraitance institutionnalisée, comme tu en parlais. Il y a aussi la gestion comptable du matériel en fait. Et tu parlais, t'as donné un exemple qui, enfin, je trouve ça hallucinant sur des matelas. Alors, je sais pas si t'as envie d'en parler, mais je trouve que c'est
Alors, l'histoire des matelas à air, c'est une histoire assez étrange chez nous. Alors, un matelas à air, je tiens à le préciser, parce que les gens, je pense, ne savent pas tous ce que c'est. Un matelas à air, ce sont des matelas qui ont été inventés pour les personnes qui ont des risques énormes d'escarres. Donc, c'est, voilà, c'est des gros problèmes de santé quand on est âgé. Et donc, niveau budget, il y a très longtemps, nos matelas étaient pourris. Voilà, on va le dire clairement. N'ayant pas de budget, nous avons remplacé par de la location de matelas à air. Donc pendant des années, beaucoup de matelas à air étaient mis en place. Je tiens à dire, pendant des années, notre maison de retraite n'avait aucun escarre. Donc, c'était notre fierté hein, de chez nous. Et puis là, c'est depuis quelques temps. Alors, on n'arrive pas trop à savoir pourquoi ni comment, mais il y a eu une décision qui a été prise d'enlever ces matelas à air sans nous concerter et de mettre des matelas. Mais le problème, c'est que les anciennes qui étaient dans cette maison depuis toujours ont découvert que ces matelas, c'était les matelas pourris qu'on avait enlevés il y a longtemps. Donc, ils ont été quand même mis, vu qu'ils avaient enlevé d'autres matelas. Donc, nous avons beaucoup plus d'escarres. Mais en plus, c'est une balle, parce que tout le monde se renvoie la balle. On ne sait pas qui vraiment a pris cette décision, parce qu'un grand directeur lui dit que c'est pas lui. Mais la raison est toujours là. Et nous, par contre, ça nous rajoute énormément de travail. Et puis, on a gentiment notre cadre qui nous rappelle que notre rôle premier, c'est quand même les SPE, c'est les soins préventifs d'escarres. Mais comment vous expliquer que...
Mais sans l'outil qui permet de les prévenir.
Voilà. Et, comment vous dire que masser des patients quand on a le temps, c'est bien. Quand on en a 12, c'est moins bien. Donc, c'était vraiment un matériel pour nous qui nous soulageait énormément parce qu'on n'a plus le temps de tout faire. Et voilà, et c'est très choquant que pour des budgets, parce qu'on pense qu'on va faire une économie de 3 francs 6 sous, on enlève ces choses et qu'en plus personne s'accorde.
Oui, personne ne l'assume non plus.
Voilà, en fait, c'est ça, c'est que personne ne l'assume. Et nous, au milieu, on est les pauvres soignantes qui, bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, après, on pallie avec les familles encore. Mmh. Parce que c'est vers nous que les familles viennent se plaindre.
Évidemment, oui. Parce que vous êtes en première ligne dans tous les cas.
Dans tous les cas, c'est toujours nous. Et nous, le problème, c'est qu'on est les premières à râler, quoi, et à le dire qu'on est d'accord avec ces systèmes qui sont complètement inhumains. Enfin, voilà, après, c'est surtout les lave-mains, tout, nous compte tout, nos essuie-mains, nos lave-mains, nos gants de toilette, tout est compté.
C'est surréaliste quand même.
Les protections, sachez que les protections, vos patients ont un nombre de protections par jour qui sont mises au-dessus des placards, les portes sont fermées. Nous ne prenons pas comme on veut des protections.
Ça veut dire donc si une personne est malade et se fait plus de sucre d'habitude.
Je suis obligée de demander la clé à ma chef, l'autorisation d'aller chercher notre protection.
C'est quand même dingue.
Ah mais parce que c'est connu, hein, c'est ça qui fait le gouffre des finances en fait.
Ça coûte très très cher.
Non, c'est ça, c'est surréaliste.
Non mais c'est une vérité, hein, ouais. c'est parce que c'est un budget donc.
Oui, donc on calcule tout.
Tout est compté. Ouais.
Et justement, en fait, on voulait aussi aller vers les revendications qui ont été portées pendant la manif du 30, si je me trompe pas.
Oui, c'est ça, lundi.
Et qui, elles, là aussi, elles sont pas du tout, vous demandiez absolument pas de hausse de salaire.
C'est ce qu'on s'est rendu compte, les uns et les autres, mardi, pendant la manifestation, hein, quand je dis les uns et les autres, des personnes, en fait, que je ne connais pas, mais qui sont soignants comme moi d'autres structures, et quand tous fait la même réflexion, c'est que notre première revendication, c'est on veut du personnel. On ne demande même pas notre augmentation de salaire, c'est nos conditions de travail, c'est qu'on ne peut plus travailler dans des conditions pareilles à être inhumain envers des gens, c'est plus possible.
Parce que je vais juste faire un petit résumé quand même de ce qu'on se dit depuis le début, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont arrivés là au milieu. Donc, non mais c'est vrai, on va donc rappeler que vous n'êtes pas assez, hein, je rappelle, 7 aides-soignants pour 72 personnes, 82 personnes.
On est 7 pour 72 et 1,5 pour 10 au Cantou.
Voilà, Cantou qui étant les endroits où les gens ont des problématiques plus de démence que. Voilà. Et donc, du coup, donc ça, c'était la réalité. Dans le même temps, vous prenez la pression des familles, de la direction et du coût financier qui est calculé en permanence. Vous n'avez pas de soutien psychologique, évidemment, parce que sinon ce serait trop demandé, hein, quand même.
Oui.
Je parle vraiment de psy, hein, qu'on peut aller voir ou quelqu'un avec qui on peut décompresser à un moment donné. Vous êtes la profession aujourd'hui, l'une des professions les plus touchées par les arrêts maladie en lien avec les épuisements professionnels. Oui. C'est ce qu'on appelle vulgairement les burn-out. Voilà, qui ne sont toujours pas reconnus par la loi parce qu'évidemment ça n'existe pas. Et tout ça en fait, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui t'as encore envie? Moi, je me demande vraiment parce que je me dis, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu tiens et que tu te dis, je vais continuer quand même quand on voit ça sur la table, en fait.
Alors là, je vais parler.
Alors, toi, comme tous ceux qui étaient dans, et toutes celles qui étaient dans la rue, parce que quand on descend dans la rue pour défendre un métier, c'est généralement aime ce métier. Sinon,
je pense vraiment que la gériatrie, l'école d'aide-soignante t'apporte pour travailler dans tous les secteurs, mais la gériatrie, c'est très particulier. Pas tout le monde veut travailler en gériatrie parce que c'est quelque chose. Oui, faut aimer. Moi, j'ai toujours aimé ça parce que je pense que la personne âgée peut m'apprendre beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses grâce à beaucoup de personnes. Et puis, je trouve ça passionnant. La vie, savoir la vie des gens, connaître tout ce qu'ils ont pu mener dans leur vie. Et puis, apporter du bien-être. Je pense que nos anciens, ils ont besoin aussi qu'on soit là pour eux. Et je trouve ça tout à fait normal. Enfin, moi, ça me paraît logique que j'y sois, en fait.
Non, mais c'est bien comme réponse. Mais du coup, il faut du personnel.
Ouais.
Là, aujourd'hui, vous estimez à combien? Il faudrait doubler quasiment le personnel?
Ouais. Alors, c'est vrai que, à la manif, on se dit, il faut toujours dire plus pour. parce qu'on disait un pour un. On sait très bien que le un pour un n'existera jamais, mais il est vrai que si déjà on pouvait avoir un pour cinq, ce serait déjà bien quand même. On pourrait faire des choses à un pour cinq. Déjà me diviser mon travail en deux.
Une aide-soignante ou un aide-soignant pour cinq résidents.
Voilà. C'est ça. Maximum.
Ouais.
Ce serait le top.
C'est-à-dire,
donc c'est vraiment le double de ce que vous êtes aujourd'hui.
Le double de ce qu'on est, ouais. Ouais.
Alors juste quand même donner des chiffres, parce que c'est bien aussi de voir ce qui se passe ailleurs en Europe. En Suède, aujourd'hui, c'est 1 pour 1,6. Mmh. C'est-à-dire il y a une aide-soignante pour 1,6 résidents.
Oui. Ouais,
voilà. Au Danemark, aujourd'hui, c'est quasiment 1 pour 1. C'est-à-dire quasiment une personne à temps plein avec une personne en dépendance, voilà. Donc c'est faisable parce que c'est des pays qui ont à peu près des PIB équivalents par habitant à la France, hein, parce qu'on compare. On dit toujours faut comparer ce qui est comparable. Bah ça tombe bien, c'est comparable. Donc voilà. Donc voilà. Et par contre, ce sont deux pays qui ont une branche dépendance, c'est-à-dire qui ont reconnu la dépendance comme étant une nécessité absolue d'être pris en compte. Voilà. Donc c'était juste pour coller avec les revendications que vous aviez. Elles sortent pas, c'est pas un délire que vous avez d'un seul coup, c'est quand même que vous avez des exemples ailleurs.
C'est vraiment une concertation, on fait un constat, c'est que toutes les EHPAD vivent et subissent les mêmes problèmes que nous.
Ouais.
Je veux dire, c'est vraiment général.
Vas-y. Je voulais pas te couper. Et là, sur le mouvement que vous avez eu la semaine passée, c'était quoi les réactions des familles, en fait?
Alors, il y a eu certaines familles qui nous ont accompagnés, qui sont venues manifester avec nous. Quand même, on a eu quelques familles qui sont venues. Et après, c'est toujours différent. Il y a des familles qui sont plus dans la compréhension et d'autres qui seront plus dans le budget.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils adoptent la même réflexion budgétaire en fait que tout le reste de la société. En
voilà,
fait,
c'est
une histoire d'argent. Tout le
c'est
temps.
Ça. Mais après, comme je l'expliquais, je peux me mettre aussi à la place d'une famille qui se retrouve à devoir mettre 400 euros par enfant pour pouvoir payer la maison de retraite de leur père ou de leur mère, qui eux leur créent un gros trou pour leur vie de quotidienne de tous les jours, donc ils attendent une prestation qui ne peut pas être donnée, donc râlent après, mais parce que peut-être qu'il faudrait peut-être gratter un petit peu plus et comprendre que c'est pas forcément le petit personnel qui ne veut pas, quoi. C'est plus qu'il faudrait taper avec nous plus haut.
C'est ça, c'est comme ils feraient mieux de, ils auraient
de venir
meilleur
avec
compte,
nous, ouais.
Voilà, de prendre en compte vos revendications et de dire nous on exige du personnel.
Moi je pense que c'est plutôt, je pense sincèrement que là pour s'en sortir, il faudrait que toutes les familles se mettent avec nous, oui.
Ouais, c'est ça. Alors que finalement les usagers comme on disait avant et les clients comme on dit maintenant puissent dire il y a un moment donné non ça c'est pas acceptable donc vous changez vos méthodologies quoi.
Ah, je peux juste faire une petite parenthèse parce que je trouve ça assez drôle. Donc ma petite animatrice qui a son pauvre petit mi-temps, donc de temps en temps fait des petits groupes pour faire ses soi-disant petites animations plus individuelles et l'autre fois elle posait des questions et elle demandait aux petites mamies avec qui elle était quel est le métier que vous n'aimeriez pas faire. Bizarrement elles ont toutes répondu notre métier. Parce qu'elles trouvent que notre métier il est 10 fois trop dur et que c'est inhumain ce qu'on nous fait faire. Et quand j'entends ça de personnes âgées, je me dis que quand même il y a quelque chose à revoir quand même.
Clairement, ouais.
Et justement, enfin, tu disais aussi que par le passé, il y a eu justement des luttes où les familles en fait étaient avec
vous, et ça portait ses fruits. Alors moi, dans ma maison de retraite, en 2002, on a décidé, on est monté en grève. Et à cette époque-là, nous avions toutes les familles qui sont mises avec nous, parce qu'il y avait déjà pas beaucoup de moyens. Et grâce à ça, les familles sont montées jusqu'à séquestrer le directeur de l'époque. Et c'est vrai qu'on avait tenu 15 jours et grâce aux familles qui nous ont soutenus, on avait obtenu du personnel en plus et du matériel en plus pour travailler. Et c'est vrai qu'on avait eu quelques années assez sympathiques quand même. Suite à ça.
Donc la victoire n'est pas impossible.
Non.
La lutte, effectivement, il faut qu'elle soit plus collective.
Voilà,
il faudrait
que les gens se disent que ça, si, arrêtez de penser que ça sert à rien. Je pense sincèrement que tous ensemble, on peut y arriver.
Et quand même, on va relier, parce que tu voulais le faire. Tu disais que tu voulais saluer quand même aussi les hospitaliers de Lyon Sud.
Oui, je voulais vraiment les soutenir parce que je tiens à rappeler quand même que les urgences de Lyon Sud ainsi qu'HEH qui les a rejoints sont en grève illimitée et ce sont, si vous regardez, les mêmes revendications que les nôtres. Ce sont les conditions de travail et le manque de personnel qu'ils ont. Et voilà, je voulais juste en faire un lien parce qu'on est tous liés et qu'on est tous dans la même galère et on a tous un métier où on nous enlève de plus en plus de budget et on nous demande de faire de plus en plus de rendement et que ça devient inadmissible.
Et moi, je voulais juste quand même parler d'une chose, c'est les chiffres. Parce qu'on a quand même une ministre qui est très très forte, qui nous a dit il y a 30,3% des gens des EHPAD qui étaient dans la rue. Sauf qu'elle a oublié de préciser, alors que ces chiffres sont en ligne quand même, que 59,3% étaient réquisitionnés. Mm. Alors comme tu le soulignais, quand on est réquisitionné, c'est qu'on fait grève.
On est gréviste, mais on est obligé de travailler.
On est obligé de travailler. Donc si vous faites une petite addition, très rapidement, 59 plus 30, ça fait 89% des gens qui étaient dans un mouvement de grève le 30 pour réclamer du personnel.
C'est ça.
Donc on n'est pas dans un truc isolé, on n'est pas, comme certains veulent le dire, sur un fantasme d'un syndicat qui voudrait foutre le bordel.
Non,
on est vraiment
c'est intersyndical.
On est vraiment dans une problématique et dans un quelque chose de dur.
Mais tu voudrais dire, vous voudriez dire ou sous-entendre que la ministre a un point de vue très subjectif ?
Ben oui, comme d'hab.
Ah oui, c'est vrai. Non, mais faudrait pas l'oublier, en fait. C'est effectivement ça le truc aussi, c'est que on peut se demander pour qui travaillent les ministres, etc. Si c'est pour le bien commun ou si c'est pour le bien de eux-mêmes et de leurs copains, de différents secteurs privés, etc. quoi.
Et de la même façon, c'est une autre question que tu soulevais tout à l'heure, c'est aussi la question finalement de vivre de plus en plus longtemps,
voilà.
Mais dans quelles conditions ? Et
que finalement,
tu dis si c'est pour abandonner les gens derrière, ça sert à rien,
voilà.
Quoi, en fait.
Non, c'est ce que je te disais, ouais, je trouve très bien, on fait des recherches pour prolonger la vie des gens, mais à quel prix, quoi ? Si c'est pour finir comme on nous fait finir maintenant. J'en vois pas l'intérêt, en fait.
Mais tu disais même que toi et tes collègues... Vous disiez
ah non, j'ai aucune de mes collègues, je peux le dire, et je peux vous le dire, c'est 100% de mes collègues, où toutes, on se le dit, mais on veut toutes partir à 70, 75, quoi. Aucune ne veut finir en maison de retraite au jour d'aujourd'hui. Mmh. Finir comme ça, c'est pas possible.
C'est grave, quand même. Enfin, que vous-même, vous disiez ça, c'est qu'on voit la détresse et le degré le besoin qu'il y a aujourd'hui de personnel et d'humanité, en fait.
C'est ça. Ouais. C'est qu'il n'y a plus assez d'humanité dans ces maisons.
Par contre, il y a de plus en plus de finances à tous les niveaux, quoi.
Ah oui, bah ça, par contre, oui.
Non, mais enfin, c'est pas. Enfin, je pense que c'est vraiment. Il faut qu'on arrive à adopter des visions plus globales, etc. C'est parce qu'effectivement, on rentre dans une logique. Et ça date pas d'aujourd'hui non plus, et du Macron qui est arrivé, mais ça fait des années et des années que finalement, oui, tout ça, c'est toujours une vision très. Très entrepreneurial, financier, etc. Et comptable, effectivement.
Oui, tout à
quoi.
Fait. Voilà.
Est-ce que la santé est comptable ? Est-ce que le bien-être est comptable ? Est-ce que l'attention aux autres est comptable ?
Je crois pas.
C'est ça. C'est qu'aujourd'hui, c'est ce qui choque. Mmh. Mmh.
On fait une petite coupure
musicale, ouais.
Allez.
Ah ouais.
Crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good.
dernière ligne droite pour la causerie. C'était Harry Styles avec Sign of Times, avec une chanson choisie par Delphine qui nous accompagne ce soir. Et ben, on en termine. Merci à toi d'être venu parler des EHPAD, de tes conditions de travail, de ce que vivent aussi les résidentes et résidents. Parce que je pense et j'espère que pour les gens qui nous écoutent ou ceux qui nous réécouteront en podcast, ce sera l'occasion de voir que ben, il y a un réel problème et qu'il faut le prendre à bras le corps et que c'était pas juste, c'est pas juste une question de sous-sous, c'est vraiment une question de vie, vie au sens premier du terme et d'humanité au sens premier du terme. Et donc du coup, est-ce que tu as un dernier mot à passer, un coucou ou quelque chose?
Bah écoutez, si, je vais me permettre juste de faire un gros coucou à toutes mes collègues à qui je pense très fort, qui sont merveilleuses et voilà, qui se déchirent tous les jours et qui en font un maximum. Donc je tiens vraiment à les remercier. Parce que voilà, c'est grâce à elle que je serai toujours avec elle et je serai toujours là parce que on est une équipe au top. Voilà.
Ben voilà. Et moi, je vais juste dire quelque chose avant qu'on passe à l'agenda. Quand vous voyez un piquet de grève n'importe où, devant une EHPAD, devant un hôpital, devant une entreprise, n'importe quoi, arrêtez-vous. Venez dire bonjour, venez vous renseigner, discuter avec les gens. Vous verrez, ça fait juste ça, ça fait du bien. On se sent moins seul quand on est sur un piquet de grève et c'est que ça. Les gens s'arrêtent. Ou même quand vous n'avez pas le temps, un petit coup de klaxon, ça fait plaisir. Voilà, mais juste voilà, manifester que vous êtes d'accord avec.
Et ça permet aussi de mieux comprendre et la lutte
ouais, tout à fait.
Qui est menée par celles et ceux qui sont en grève.
Tout à fait.
Et bien des brèves.
Agenda.
Allez, agenda.
On commence par ce qui se passe toute la semaine, la permanence CGT pour les travailleurs sans papier. C'est de 10h à midi tous les jours au 215 cours Lafayette dans le 6e à l'Union départementale du Rhône CGT. Voilà. Le lundi 5 février, il y a des cours de langue à destination des migrants qui sont donnés à la Plume Noire par la CGA de 18h à 20h. Et il y a aussi une permanence juridique de soutien aux sans-papiers, donc plus large que la permanence aux travailleurs sans-papiers, qui elle se tient de 18h30 à 20h à la Lutine, 91 rue Montesquieu, dans le 7e.
Le rendez-vous suivant, c'est le mercredi 7 février. Alors c'est une rencontre avec Gilbert Four qui, autour de son livre en fait, qui s'appelle « Rebelles et rébellions Touareg au nord du Niger de 1990 à 2009, témoignages et analyses » aux éditions Hémisphère. Et ça se passe en fait à la librairie Terre des Livres qui est située au 86 de la rue de Marseille dans le 7e arrondissement. Donc mercredi 7 février, 19h-20h, voici.
Et le jeudi 8 février, le fameux groupe Soins qui s'est créé sur Lyon il y a maintenant quelques mois pour penser collectivement les questions liées à notre manière d'être malade et en bonne santé et de s'autonomiser dans nos pratiques de soins, appelle à une soirée réflexion et connaissance autour du système reproducteur féminin. Et c'est de 19h à 21h à la librairie La Griffe, 5 rue Sébastien Griffe, dans le 7e, jeudi 8 février.
Et on reste toujours le jeudi 8 février. C'est une représentation théâtrale qui reprend le texte « Zone du dehors » d'Alain Damasio par Benjamin Maillet. Ça se nomme « Le dehors de toute chose ». Et c'est jeudi donc 8 février à 19h30 à la librairie Le Virevolt, c'est dans le Vieux-Lyon à Saint-Paul.
Il est tout fatigué, hein.
Voilà pour les rendez-vous et la causerie dimanche prochain.
Bah oui.
De 22h à 23h.
Ouais, et on peut déjà dire que dans 15 jours, on aura une causerie spéciale ZAD.
Voilà. C'est ça.
Vous allez voir, c'est cool.
C'est ça. C'est quoi la ZAD? Qu'est-ce qu'on y fait? Et puis, quelles sont les projections à faire aussi?
Pas sa prochaine, celle d'après. Hein. J'ai dit dans 15 jours?
Oui, c'est ça.
Ouais. Moi, je vais me coucher, moi. Merci, Delphine, d'être venue.
Oui. Merci à vous de m'avoir reçu.
Et on espère que ton message aura été entendu largement. On se retrouve la semaine prochaine et on va se quitter avec
Imagine Dragons.
Ah, je voulais qu'elle le dise.
Ah, pardon.
Je suis le dernier, elle peut le dire.
Ah, pardon, mais vas-y, tu peux donner le titre si tu veux.
Non, c'est bon.
Et le titre, c'est Radioactive.
Et voilà.
À la semaine prochaine. Bon courage pour la semaine à venir. Et puis, bah, des bisous.
Des
à
bisous.
Vous.
Au revoir.
Salut.
Ciao. I'm breaking in.
from inside. We'll be right back.